Les infos à Washington.
Anne Talani devant ce microphone. Il est 14h ici à Washington DC. La ministre éthiopienne a indiqué ce samedi que l'identification des restes des 157 victimes du crash qui a eu lieu dimanche grâce à des analyses ADN va prendre approximativement 5 à 6 mois. L'identification sera effectuée en faisant correspondre l'ADN des restes des victimes collectés sur le lieu du crash à quelques 60 km à l'est d'Addis Abeba avec des échantillons ADN soumis par les familles. Ses proches peuvent envoyer des échantillons ADN à Addis Abeba ou dans n'importe quel bureau d'Ethiopian Airlines. Les effets personnels collectés sur le lieu du crash seront remis aux proches dans approximativement 2 mois et les certificats de décès dans 2 semaines. Pour les familles de confession juive, il est difficile d'organiser les funérailles sans les restes des disparus. Le délai de 6 mois est donc difficile à accepter. Dans un document, Ethiopian Airlines indique que les familles peuvent prélever de la terre collectée sur le site du crash et qu'elles recevront ensuite une attestation leur permettant de passer les douanes sans encombre. Par ailleurs, l'enquête sur les causes du crash de ce Boeing 737 MAX 8 qui a entraîné le clouage au sol de ce type d'appareil va prendre un temps considérable. L'enquête requiert une analyse minutieuse et un temps considérable pour parvenir à des conclusions concrètes, a déclaré la ministre éthiopienne Dagmawit Moj. Des boîtes noires ont été envoyées en France où elles sont analysées par le bureau d'enquête et d'analyse français. En RDC, 2 victimes, dont un défenseur des droits de l'homme emprisonné depuis 2009, ont été libérées hier et aujourd'hui comme conséquence de la grâce annoncée par le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, le mercredi. Ce matin donc, l'ex-député Franck Diongo, leader du parti d'opposition Mouvement Lumumbiste Progressiste, est sorti de la prison centrale de Makala devant laquelle il a été salué par plusieurs centaines de personnes. De son côté, Firmé Yangambi a tweeté depuis hier « Je suis sorti de prison ce jour ». Et il affirme n'avoir ni rancune ni rancœur. Il est temps de sauver le Congo, a-t-il poursuivi. Il avait été condamné pour tentative d'insurrection sous l'ancien régime du président Kabila et est en prison depuis 2009. Outre ces 2 prisonniers emblématiques, M. Tshisekedi a promis la liberté conditionnelle pour 700 autres personnes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En France, de premiers heurts avec les forces de l'ordre ont éclaté ce samedi sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris, quadrillée par les forces de l'ordre lors de la 18e journée de manifestation des Gilets jaunes en révolte depuis 4 mois contre la politique fiscale et sociale du gouvernement. Selon les images diffusées par les médias, des manifestants ont tenté d'attaquer un camion de gendarmerie tandis que d'autres érigeaient des barricades sur l'avenue où des milliers de gilets jaunes ont commencé à se rassembler en début de matinée. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau pour disperser les manifestants. 31 personnes au moins ont été interpellées selon un bilan communiqué ce matin par la préfecture de police de Paris. Des manifestations de gilets jaunes sont aussi prévues en province, Bordeaux, à Lyon, en passant par Montpellier. L'Australien Breton Tarrant, âgé de 28 ans, a été inculpé après l'un des pires crimes jamais perpétrés en Nouvelle-Zélande, le massacre de 49 fidèles dans des mosquées de Christchurch. Lors de sa brève comparution devant le tribunal, il a rapidement fait de la main droite le signe OK en joignant le pouce et l'index, symbole utilisé à travers le monde par les adeptes du suprémacisme blanc. Il n'avait vraisemblablement pas de casier judiciaire et n'était pas sur les radars des services de renseignement néo-zélandais. Un de ses superviseurs se souvient même de lui comme d'un employé qui travaillait dur, mais qui aurait été transformé par des voyages en Europe et en Asie. Des publications sur les réseaux sociaux laissent penser qu'il serait allé jusqu'au Pakistan et en Corée du Nord. Au Yémen, les rebelles ont prévenu ce samedi qu'ils pourraient attaquer les capitales de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, les 2 poids lourds de la coalition qui les combat depuis près de 4 ans. C'est la fin. Je vais vous retrouver dans 1 heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
VOA Afrique.